Et j'espère que vous avez hâte de la recevoir. Amen. Donc, je vais vous inviter à faire quelque chose, juste à prendre votre Bible entre vos mains. Et si vous n'avez pas une Bible avec vous ce matin, il y a des feuilles qu'on a distribuées à la porte qui contiennent presque tous les versets que nous allons lire ce matin et qu'on va étudier dans la parole de Dieu. Nous croyons que ce livre est inspiré de Dieu.
Amen.
On croit vraiment que ça contient les paroles vivante de Dieu et que cette parole a le pouvoir de nous changer. Donc c'est pourquoi aussi on aime faire cette prière ou cette déclaration parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu et je serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez, avant de partir pour faire le ministère en France, on a fait quelques séries. On a fait une série sur « Laissez-vous transformer ». Vous vous rappelez de cela? On a parlé de comment la parole de Dieu peut nous changer. Et vraiment, on a parlé qu'il ne faut pas rester chenille, mais devenir papillon dans l'esprit. On a fait une autre petite série sur « L'homme dans le miroir ». Est-ce que vous vous rappelez de cela? On a dit que la parole est comme un miroir. Et dans ce miroir, on voit qui nous sommes en réalité dans l'homme intérieur. Donc, j'espère que depuis que vous êtes en train de mettre cette parole en pratique, que vous prenez un temps tous les jours de vous regarder dans la parole, de déclarer ce que vous voyez et puis d'agir en conséquence. Sinon, je vous encourage de le faire. C'est pas trop tard. Amen. On veut être changé. Et je sais que quand Pasteur Pierre Cyr est venu il y a quoi 3 semaines déjà, et quand Pasteur Claude a partagé la parole de Dieu, je sais qu'il y avait des messages qui ont été apportés à l'Assemblée par rapport au retour du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et on sait que son retour est proche. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre monde. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu qui parlent beaucoup de ce sujet. Et j'avais juste à mon esprit pour aujourd'hui, et je ne sais pas, peut-être même pour quelques semaines jusqu'à Noël, on va voir, on va se laisser guider par l'esprit. Il y a des choses que j'ai vraiment dans mon cœur que je veux partager avec vous. Vraiment, c'est le cœur du pasteur, le cœur du berger. Je veux qu'on saisisse les réalités de la parole dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre dans la victoire, vivre dans la plénitude de qu'est-ce que Dieu a pour nous dans ce temps qui est si stratégique. Moi, je crois, et je crois que vous êtes d'accord, que tous les signes des temps nous pointent dans une direction. On voit les indices que le retour de Jésus est proche, n'est-ce pas? On croit cela, et si vous êtes là et vous dites, mais moi je ne sais pas de quoi vous parlez, j'aimerais juste vous dire que si on regarde dans la parole de Dieu, Dieu nous a déjà révélé son plan pour les âges, depuis la création de l'homme en Genèse, dans le jardin, jusqu'à la fin du monde. Dieu avait toujours un plan, et on sait qu'il y avait des périodes de temps que Dieu a planifiées pour que son plan s'accomplisse, pour que dans le fond, c'est une histoire d'amour. Dieu aime chaque homme et chaque femme qui est en vie sur la planète Terre, chaque homme qui a déjà vécu, chaque homme et chaque femme qui va vivre dans le futur. Dieu nous aime. Et son plan, c'est tout simplement ceci. Il veut faire en sorte que sa famille grandisse et qu'il a le plus grand nombre que possible dans sa famille pour rester avec lui pour éternité. On sait que, malheureusement, l'homme et la femme ont un peu gâché le meilleur plan de Dieu. Dans le jardin, ils ont désobéi à Dieu, ils ont ouvert la porte au péché et à toute la souffrance et à tous les problèmes que le péché mène avec. Mais Dieu n'était pas surpris, il avait déjà un plan d'envoyer son Fils. Et on voit que partout dans les Écritures, dès le commencement, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament nous pointe vers le jour où Jésus allait venir pour la première fois, qu'il allait naître d'une vierge afin de vivre sur la terre une trentaine d'années sans péché et afin de pouvoir donner sa vie à la croix comme un sacrifice, comme un substitut, afin que vous et moi, nous et les autres membres de la race humaine ne soient plus obligés de passer l'éternité à l'enfer, mais qu'on puisse avoir la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais on voit cela, tout l'Ancien Testament nous pointe vers cette direction, qu'un jour, Jésus allait naître. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu la première fois. Il est né, il a vécu sur la terre, il est mort pour nos péchés, il était enterré le troisième jour, ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé son Saint-Esprit, et là, le moment qu'il a envoyé son Saint-Esprit, c'est là où on a commencé une période dans l'histoire de l'homme, qu'est-ce qu'on appelle l'âge de l'Église. Où les croyants en Jésus avaient reçu vraiment pas juste une idée, une hypothèse, mais en réalité, le Saint-Esprit est venu vivre dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et depuis ce temps, nous avons reçu le mandat d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, afin que le plus grand nombre puisse croire et recevoir Jésus dans leur cœur. Mais un jour, la Bible dit que cet âge de grâce ou de cet âge de l'Église, si vous voulez, va prendre fin. Un jour, notre temps de prêcher et de partager notre foi va terminer et nous allons quitter la planète Terre et il y aura un temps de tribulation sur la Terre, un temps affreux, 7 ans. Où Dieu va terminer son plan pour la nation d'Israël et toutes les choses qu'il a promis dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses, le temps de souffrance et d'angoisse de Jacob, ça va être accompli pendant cette période de 7 ans. Nous serons au ciel en train de célébrer les noces de l'agneau. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Et après cette période de 7 ans, Jésus va revenir avec nous. Et il va exercer jugement sur ses ennemis, et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, on va avoir une nouvelle terre et des nouveaux cieux, et on va vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Et ça va être merveilleux, n'est-ce pas? J'ai dit cela, ça c'est l'eschatologie ou l'étude des fins des temps dans 5 minutes, ou même pas. C'est un survol, mais pour que vous sachiez que nous sommes dans une période importante. Nous sommes dans le temps où nous avons le privilège, l'honneur et la responsabilité de dire à tout le monde que Jésus est vivant, que Jésus les aime et que s'ils invoquent le nom de l'Éternel, qu'ils peuvent être sauvés avant la tribulation. Comme ça, ils peuvent prendre le premier train quand ça part. Amen. Ils peuvent éviter tout ce temps de tribulation. Mais savez-vous quoi? Une chose que je sais, parce que c'est pas... Je suis quand même un jeune chrétien, dans un sens, comparé à certains hommes qui ont vécu 80 ans dans le Seigneur, mais ça fait quoi, 35 ans ou quelque chose, une trentaine d'années que je suis, 31 ans que je suis sauvé aujourd'hui. Mais depuis 30 ans, je peux vous assurer que j'ai entendu beaucoup de prédications, beaucoup de sermons concernant la fin des temps, concernant la tribulation. Et souvent, j'ai remarqué que le but, c'est presque de faire peur à tout le monde. Et le fruit, c'est pas toujours le bon fruit. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont dire les choses, enseigner les choses, qui sont pas forcément utiles ou pratiques. Et j'ai vu même des chrétiens bouleversés, des chrétiens qui sont déstabilisés, les chrétiens qui, au lieu de s'approcher davantage du Seigneur, et ça les rend un peu émotifs ou même des fois bizarres. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Des séminaires qui vont se faire sur comment reconnaître l'Antéchrist et c'est quoi la marque de la bête et toutes sortes de choses. Et des fois, ces vérités sont poussées à l'extrême et ça va déstabiliser l'Église au lieu de nous fortifier. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment dans mon cœur aujourd'hui et pour les prochaines quelques semaines? C'est de regarder ce que dit le Nouveau Testament par rapport à comment vivre dans les temps de la fin. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que ce livre contient des instructions qui sont très terre-à-terre, pratiques et qui sont loin d'être bizarres ou étranges. Parce que c'est ça que j'aime pas. J'aime pas voir dans les églises les chrétiens qui commencent à avoir toujours peur des complots et de faire et dire des choses bizarres. Moi, je sais qu'on a deux extrêmes. On a des personnes qui vont se moquer de l'idée que Jésus revient, et 2 Pierre, chapitre 3, en parle, que dans les derniers jours, il y a des gens qui vont être les moqueurs, qui vont dire, mais c'est où la promesse de son retour? Depuis le commencement du temps, tout continue de même, mais la Bible dit qu'ils oublient une chose, qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns pensent, mais il a de la patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus n'est pas venu. Donc ça, c'est un extrême de se moquer, de dire, bon, ça n'avait jamais arrivé. Mais l'autre extrême, c'est de devenir comme, c'est presque être paranoïde. Comment est-ce qu'on dit cela? Le paranoïaque, c'est ça. Devenir paranoïaque, c'est comme tout est un scandale, tout est un complot. Et moi, je m'en souviens même quand j'avais 10, 12 ans, des personnes, quand ils ont commencé à utiliser de plus en plus les cartes de crédit. Moi, j'ai connu des personnes, même dans mon église, qui ont dit, oh, il faut jamais avoir une carte de crédit parce que ça, c'est la marque de la bête. Et si vous avez une carte de crédit, vous serez marqué, vous ne pourrez pas être sauvé. Vous serez perdu si vous avez une carte de crédit. Combien de vous avez une carte de crédit? Avouez-le. Oh, vous avez reçu la marque de la bête. Non. C'est pas ça. Hein? Et j'ai vu cela. Et j'ai vu aussi des personnes qui ont, eux, des idées que, oh, c'est la fin de tes temps s'approche, donc il faut qu'on fasse de quoi? On va ramasser des boîtes de conserve, on va aller se cacher dans les bois, on va créer les places fortifiées où on peut être à l'écart quand on va se faire envahir, on va être à l'abri, on serait en toute sécurité. Il y a des groupes comme ça, est-ce que vous le savez? Ils ont peur et c'est pas du tout qu'est-ce que Dieu veut pour nous. L'Église, c'est pas nulle part dans la parole, on va voir les instructions. Allez dans les bois ou cachez-vous dans les cavernes. Amen? Mais les gens le font. Et combien de gens sont préoccupés avec l'idée de savoir, mais c'est qui l'Antéchrist? C'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'il va faire? On va voir dans quelques minutes que c'est même pas important de savoir c'est qui. Mais on va voir qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui et pour les prochaines quelques semaines. Ça vous intéresse? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Mais comme je dis, Dieu ne nous appelle pas de devenir des bizarroïdes. Il nous appelle à être une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est capable d'apporter sa parole juste aux extrémités de la terre. Donc regardons, il y a un passage, c'est assez long, il y a 17 versets ici, qu'on va trouver en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et on va lire cela aujourd'hui et on va vraiment l'étudier. C'est ça que j'ai à cœur de faire pour les prochaines quelques semaines. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tous ces apôtres qui ont écrit les Écritures, ils nous donnent les instructions précises, terre à terre, pratiques. Et c'est vraiment, c'est le OMC, on pourrait dire, amplifié. Vous savez c'est quoi le OMC? Oui, mais comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique? Mais regardons, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus à travers les années qui ont perdu leur bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de vous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc déjà, l'apôtre Paul est en train de corriger des problèmes. Ici, dans cette ville, il y avait des lettres qui ont circulé en disant que dans le fond, l'église était déjà enlevée, que le jour du Seigneur est déjà venu, et que à l'époque, il y a des personnes qui étaient convaincues que Néro, qui était César, qui était le plus grand homme politique de l'époque, qui était un homme méchant, qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens, qui donnait les chrétiens aux lions et tout cela. Il y a des personnes qui étaient convaincues que Néron était l'Antéchrist. Donc, ils ont commencé à propager cette idée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous qu'est-ce qui est drôle n'est pas drôle? Les gens du premier siècle ont commencé à réagir de la même façon que quelques-uns réagissent aujourd'hui. Ils ont commencé à dire, ben écoute, si le Seigneur revient ou si c'est déjà trop tard, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a même des personnes qui ont abandonné leur travail. Ils ont arrêté d'aller travailler en disant, mais écoute, c'est la fin des temps, c'est la fin du monde, qu'est-ce que ça donne de travailler? On va juste attendre que Jésus vienne nous sauver. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont fait des choses comme ça? En 1988, est-ce que j'ai déjà partagé cette histoire avec vous? En 1988, on est allé, en fait, on a passé un mois ou deux mois, je m'en souviens plus, en France pour faire du ministère. Et on est revenu le mois de novembre 88. Et en revenant à la maison, on habitait au Missouri à l'époque, on avait un pile de courrier qui n'a pas été ouvert. Donc là, bon, il faut trier le courrier, il faut regarder toutes ces choses. Et tout d'un coup, j'étais dans mon petit bureau à la maison, et Tania était dans l'autre pièce, et je tombe sur un petit paquet, j'ouvre cela, il y a un petit livre là-dedans. 88 raisons pourquoi nous savons que Jésus revient, et c'était le 18 septembre 1988. Il y avait juste un problème. On est rendu au mois de novembre. Et là, j'ai crié, Tania! On a manqué l'enlèvement! C'était le 18 septembre! Mais 88 raisons. Mais ça, et moi, je riais. Je dis, bon, c'est ridicule. Les gens, ils connaissent pas leur Bible. La Bible dit que personne sait le jour, personne sait l'heure. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit, ça va être tel jour, telle date, vous savez déjà qu'il est dans le champ des patates. Hein? Plus que ça, oui. Mais ça marche pas. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce qui était vraiment triste? J'ai eu des personnes que je connaissais personnellement, qui ont avalé cela, et dans leur église, ils ont eu des soirées de l'enlèvement, où ils ont dit, bon, mais ce soir, c'est la veille de l'enlèvement, donc on va tous venir à l'église, on va avoir un temps de louange, d'adoration, et on va partager la nourriture, on va avoir un bon temps pour que, quand Jésus vienne, on est prêt à partir. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette image. Si Jésus vient vraiment demain matin, qu'est-ce que vous faites dans l'église? Vous devrez sortir et partager la foi avec le plus grand nombre que possible, n'est-ce pas? Amen. Savez-vous qu'est-ce qui est encore pire? Pardon? Qu'est-ce qui est encore pire? C'est que il y a des personnes qui ont fait du magasinage la semaine avant, avec leur carte de crédit, en disant, bon, mais Jésus revient, j'aurai même pas besoin de payer la facture. Donc, je signe. Bon, on va aller manger. Tu veux manger au restaurant, chérie? Bon, allons-y. Ah, tu veux une nouvelle robe? Pas de problème. Hein? C'est horrible, n'est-ce pas? C'est vraiment la folie, et pas à peu près. Mais encore, on voit que c'est le même genre de problème qui existait en Thessalonique. Et c'est pourquoi Paul est en train de corriger ce problème. Et je crois que ces paroles s'applique à nous aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? OK, on continue, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Encerclez le mot apostasie, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça parle de l'Antéchrist. Et qui n'était pas un héros. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez que ceux qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Tu peux encercler le mot disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par les puissances de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. OK? Donc, on continue, Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais on va arrêter là. Mais est-ce que vous comprenez qu'est-ce que Paul, par l'Esprit Saint, est en train de dire? Il a dit, écoutez, ça se peut pas que le jour est déjà arrivé, ça se peut pas que vous avez manqué l'enlèvement, parce que ce jour ne peut pas arriver. Et voici, il a dit, en fait, les événements qui doivent avoir lieu avant. L'homme du péché, ou l'homme de l'iniquité, qui est l'Antéchrist, qui va un jour vraiment séduire les nations et qui va se proclamer Dieu et qui va ensuite faire des choses horribles pendant la tribulation. La Bible dit ici que cet homme ne peut pas apparaître aussi longtemps que celui qui le retient est encore ici. Il y a une force qui retient et qui empêche l'Antéchrist d'apparaître. Et c'est pourquoi il dit, il faut que l'apostasie arrive avant. Le mot apostasie, des fois les personnes vont penser, oh, mais dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi. Et le mot abandonnera, c'est l'apostasie. Ah, mais on peut avoir un verbe ou on peut avoir un nom. Quand c'est un verbe, ça veut dire de partir d'une croyance ou d'abandonner une croyance, une foi. Donc, il y a des personnes qui vont abandonner leur foi. Donc, il y a des gens qui ont eu l'idée que, bon, mais à la fin des temps, tous les chrétiens vont juste abandonner leur foi et puis l'Église va devenir tellement impuissante ou presque disparaître et ensuite l'Antéchrist va venir. Mais c'est pas du tout qu'est-ce qu'on voit dans la parole. La parole de Dieu dit que Dieu attend le précieux fruit de la terre. La parole de Dieu dit que Jésus revient pour une église glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. La parole de Dieu nous indique que Dieu attend et il est patient parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Donc, qu'est-ce qu'on voit vraiment dans le Nouveau Testament? On devrait s'attendre à voir un grand réveil et que l'église devrait grandir. Et je continue à trébucher là. Voilà. C'est bon parce que j'aime ça ici. Et je peux aller là aussi, vous voir. Mais, vous savez, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant que la chaise m'a trébuché? Non. Hein? Oui, c'est ça. Donc, mais ce mot apostasie, littéralement, veut dire ceci. Quand c'est un nom, ça veut dire départ. Tout le monde dit départ. C'est-à-dire que, littéralement, il faut pas, et il ne peut pas, il est impossible que l'Antéchrist apparaisse avant le grand départ. Celui qui le retient doit partir avant. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Regardons ceci. Dans vos notes, on a vu cela, on a lu. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Tout le monde dit disparu. C'est qui retient l'Antéchrist aujourd'hui? C'est l'Église qui est rempli du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que l'Église est sur la planète Terre, l'Antéchrist ne peut pas apparaître. Amen? C'est biblique. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on sait que il faut que le grand départ, il faut que celui qui retient l'Antéchrist soit disparu. Et une fois qu'on est disparu, laisse-moi vous dire, ça ne va pas bien aller sur la planète Terre. Déjà, la Bible dit qu'il y a un esprit d'antéchrist qui est à l'œuvre depuis des siècles, n'est-ce pas? On a juste à regarder les nouvelles. Le 26 novembre, en Inde, on a eu des choses horribles qui viennent de se passer, n'est-ce pas? Des jeunes hommes. J'ai vu des photos de plusieurs de ces terroristes. Si vous savez de quoi je parle, il y avait des terroristes qui ont attaqué les hôtels, les hôpitaux et les places publiques. Et leur but, c'était de tuer 5000 personnes dans le plus bref délai. Heureusement, ils ont été arrêtés, mais quand même, il y avait des centaines de morts et de blessés, et même les Canadiens qui ont été touchés par cela, n'est-ce pas? Donc, c'est horrible, on voit toutes ces choses qui se passent, et on dit, wow, c'est méchant, est-ce que c'est la tribulation? Non, ça, c'est rien comparé à ce qui va se passer pendant la tribulation. Allô? Mais, la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, nous sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, notre cité à nous est dans les cieux. Et avant que l'homme du péché soit apparu, il faut que nous soyons disparus. Amen. On va continuer, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre constamment grâce parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, demandez une consolation éternelle, et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset et dans ce passage? On voit les instructions vraiment importantes, mais aussi très pratiques et terre à terre. En fait, je vais commencer juste en vous donnant quatre raisons pourquoi il est important pour vous et pour moi et pour l'Église de comprendre les événements du fin du temps et de savoir comment vivre. Premièrement, et c'est dans vos notes, si vous voulez prendre cela en note, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier ce sujet? Premièrement, pour ne pas être troublé ou bouleversé. On va respirer. Regarde quelqu'un et dis, ne sois pas troublé. Regarde quelqu'un d'autre et dis, n'aie pas peur. Mais là, bien entendu, je prends pour acquis que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est une autre histoire. Peut-être vous devriez, je veux pas que vous ayez peur, mais je veux que vous réfléchissiez comme il faut, parce que vous voulez faire partie de ceux qui vont quitter, et qui vont disparaître avant que l'homme du péché ait manifesté, n'est-ce pas? Mais regarde bien, quand même, le but de ce verset. Et voilà où on voit la différence entre les vrais enseignements de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, et certains même séminaires, ou certaines prédications que vous allez entendre sous la fin des temps. Le but de ces versets, c'est de vous consoler. C'est afin de ne pas être troublé ni bouleversé. Matthieu 24, verset 6, Jésus a dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être... On va le dire plus fort. Gardez-vous d'être... Amen. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Gardez-vous d'être troublé. Si la Bible dit qu'il faut se garder d'être troublé, il y a une raison pour cela. Amen. Gardez-vous. Donc, si vous êtes troublé dans votre cœur, tout en étant enfant de Dieu, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que vous n'êtes pas destiné ou supposé d'être troublé ni bouleversé. Regardons une autre chose que Paul a dit aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Car le Seigneur lui-même, en signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, est-ce que vous voulez faire partie des vivants? Qui seront restés, nous serons tous ensemble, quoi? Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est quoi verset 18? Qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué, effrayez-vous les uns les autres par ces paroles. Mais combien de prédicateurs, combien de choses, laisse-moi vous dire, vous allez trouver sur l'Internet aujourd'hui, sur les sites web, le but c'est de vous effrayer. Et le fruit c'est, les gens se cachent dans les cavernes, ou dans les bois, où ils deviennent bizarroïdes, et quel bon témoignage. Vos voisins veulent vraiment devenir chrétiens, n'est-ce pas? Voulez-vous devenir chrétien, vous pouvez vous cacher avec moi dans les bois. J'ai vu un spécial sur les pantalons camouflagés, on peut s'habiller en militaire et se cacher dans les bois. Mais vous riez, mais il y a des groupes chrétiens, je pense, qui font ça. Mais c'est pas biblique. Pas du tout biblique. C'est pas ça qu'on veut. On doit vivre, la Bible dit, comme les gens avertis. On ne met pas notre tête dans le sable. On ne fait pas croire que tout va bien aller pour toujours. Non, il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Même Jésus a dit que dans ce monde, vous aurez la tribulation. Mais prenez, quoi? Courage. J'ai vaincu le monde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour ne pas être séduit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier ces choses? Pas juste parce que c'est intéressant, fascinant, mais c'est parce qu'on ne veut pas être séduit. 2 Jean, chapitre 1, verset 7 dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Et j'ai pas le temps aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est que la Bible dit que l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Il y a plusieurs antéchrists qui sont déjà à l'œuvre. Et voici qu'est-ce que je trouve ridicule. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Pourquoi est-ce que vous êtes préoccupés? Je parle de vous, mais pourquoi est-ce que les gens sont préoccupés avec cette idée de découvrir l'identité de l'antéchrist? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, j'ai pas l'intention de le voir. Sauf à la fin, quand je reviens avec Jésus pour exercer le jugement, là, je vais le voir. Là, je vais voir lui, et je vais voir Satan qui est lié, qui est à côté de l'abîme, et que toutes les nations vont dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui a séduit les nations? Est-ce que c'est lui qui a fait tous ces dommages? Et c'est lui, il va avoir l'air tellement impuissant et ridicule, parce qu'il va être lié, impuissant, devant le roi des rois, n'est-ce pas? Et on va être avec lui. Mais pourquoi être préoccupé avec l'antéchrist? Mais voici ce qui est vraiment triste. Encore, les gens qui vont paniquer. Je connais des personnes qui refuseraient d'avoir un numéro de téléphone qui contienne les chiffres 666. Oh, je peux pas avoir ça. Si jamais votre adresse, il va falloir demander un changement à la ville ou quelque chose, un référendum ou quelque chose au conseil municipal, parce que mon numéro de poste, c'est que ça contient 666, je peux pas vivre là. Il y a des personnes qui peuvent jamais aller au 6e étage dans un hôtel. Il y a des personnes qui sont vraiment comme ça. Pourtant, ce qui est triste, c'est qu'ils vont coopérer avec l'esprit de l'antéchrist tout au long de la semaine. Oh, moi, je peux pas prendre une carte de crédit. Oh, je peux pas avoir un numéro 666. Mais ils vont crier après leur femme. Ils vont être bêtes avec leurs collègues au travail. Ils vont faire des choses qui sont anti-bibliques, qui ne marcheront pas dans l'amour. Ils ouvrent la porte à l'ennemi. L'esprit de l'antéchrist agit en eux. Ils n'ont pas pris le numéro, le chiffre de la bête, mais ils ont reçu dans leur comportement l'influence de l'esprit de la bête. Amen? Qu'est-ce qui est plus important? De ne pas avoir 666 dans votre numéro de téléphone ou d'avoir la paix dans votre foyer? Amen? Est-ce que vous comprenez un peu la direction qu'on prend ici? Le Seigneur veut qu'on soit des hommes instruits, et les femmes bien entendu, avertis. On sait dans quel temps on vit, on sait qu'on est dans les dernières minutes des derniers jours, on sait que Jésus revient bientôt, mais on est quand même ferme, solide, stable. On n'est pas des bizarroïdes qui se cachent dans les cavernes. Sans aucune carte de crédit, bien entendu. On continue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces choses selon ce passage? On voit cela, selon verset 13, afin d'être reconnaissant pour notre salut, reconnaissant. Savez-vous quoi? Une bonne étude, une bonne compréhension des événements des fins des temps devrait provoquer en vous les actions de grâce. Vous devriez dire, Seigneur, merci que je suis sauvé. Merci, Seigneur. Il y a un verset que je veux souligner, en Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, qui dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. C'est de valeur, j'ai pas le temps, mais la Bible nous enseigne clairement que Dieu réserve sa colère pour ses ennemis. Et pendant la tribulation, la colère de Dieu sera répandue sur la terre. Donc, il est impossible qu'on soit là pour subir la colère de Dieu, parce que la colère est réservée pour les ennemis. Amen. Jésus a dit, ça serait comme dans le temps de Noé, ça serait comme dans le temps de Lot. Pensez, dans le temps de Noé, Dieu a répandu la colère, mais son peuple ont été enlevés au-dessus du jugement de Dieu, n'est-ce pas? On pense à Lot, avant que le feu ait descendu des cieux, les anges sont allés et littéralement, ils ont arraché, ils ont enlevé Lot et sa famille de la ville avant que le jugement tombe. Donc, on a beaucoup d'espérance, n'est-ce pas? Et on devrait penser et dire, Seigneur, merci, je suis sauvé de la colère à venir. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Mais on ne devrait pas juste dire merci que je suis sauvé. On devrait penser, qu'est-ce que je peux faire pour partager cette bonne nouvelle avec mon entourage? Quatrième raison, pour accomplir notre appel et posséder la gloire de Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que verset 14 de notre texte dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, je vois nulle part ici les instructions de ramasser les boîtes de conserve. Je vois nulle part les instructions d'aller se cacher. Je vois nulle part les instructions de refuser les cartes de crédit. Mais qu'est-ce que je vois, c'est que nous sommes appelés à accomplir notre appel et posséder la gloire de Dieu. Savez-vous c'est quoi la gloire de Dieu? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la gloire? Son éclat, c'est aussi la manifestation, même temps, de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans ces derniers jours? Et c'est pourquoi on voit que ces personnes qui sont tellement paniquées, ils sont dans l'erreur, parce qu'au lieu de laisser luire la lumière, au lieu d'éclaircir le monde qui est pourri autour d'eux, au lieu de partager la bonne nouvelle, ils se cachent. Et la gloire de Dieu n'est pas manifestée et le monde reste encore dans les ténèbres. Est-ce que vous êtes là encore? Jésus revient. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir cela? Comme on a dit, je viens de vous donner quatre raisons. Pour ne pas être troublé ou bouleversé, pour ne pas être séduit, afin d'être reconnaissant pour notre salut et afin d'accomplir et posséder la gloire, notre appel et posséder la gloire de Christ. Jésus revient pour une église glorieuse. Regarde quelqu'un et dit, Jésus revient pour une église glorieuse. Regarde l'autre personne et dit, il faut que tu possèdes la gloire. Et pour terminer, Paul va continuer dans cette lettre à donner des instructions tellement terre à terre et précises. Voici qu'est-ce qu'il va dire. Quatre choses. On va terminer avec ces quatre conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il a dit à partir de verset 15 à verset 16? Je vais le lire encore dans le texte. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, numéro un, demeurez fermes. Allez pas vous cacher. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés, mais demeurez fermes. Dans ces derniers jours, Dieu a besoin d'un corps des croyants qui est ferme, qui n'est pas facilement ébranlé, qui n'est pas livré à la panique. Oh, la fin du monde s'en vient. Non, je sais en qui j'ai cru. Je suis enfant de Dieu. Dieu a réservé pour moi un héritage qui ne peut pas flétrir, qui ne perd pas son éclat et qui va être révélé le dernier jour. Amen. Mais déjà, je suis enfant de Dieu. Déjà, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Déjà, j'ai reçu le nom de Jésus-Christ et les clés du royaume. Je suis enfant de Dieu, et je suis là pour exercer mon autorité jusqu'à ce qu'il vient, je suis ferme. Verset 17 de 2 Pierre 3 dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avertis? C'est bon. Je parle pas de, oh, yeah, tout va bien aller. Non. On est avertis. Tout le monde dit, je suis averti. Je sais que Jésus revient. Et je serai prêt. Mais comment on va rester ferme? Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mais mettez-vous sur vos gardes de quoi? Hein? Mettez-vous sur votre garde de ne pas être troublé, de ne pas être séduit. Mettez-vous pas en garde de, ouh, peut-être c'est lui l'Antéchrist, ouh, c'est peut-être cette carte de crédit que je viens de recevoir par la poste, c'est bogué ou quelque chose. Est-ce que les gens m'écoutent? Regardons ceci. Mais il dit, et j'aime beaucoup ce verset qui dit, bon, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance. Demandez la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Donc, voulez-vous rester ferme? dans ces derniers jours? Voici comment. Voici le OMC. Il faut croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il faut qu'on soit mature. Il faut qu'on connaisse la parole. Il ne faut pas qu'on soit ébranlé ou emporté par chaque vague de doctrine. Il faut qu'on soit comme des arbres plantés, enracinés, pas bougeables. Est-ce que ça c'est un mot bougeable? Sinon, on devrait le mettre dans le dictionnaire parce que je l'aime. Bougeable. On n'est pas bougeable. On ne peut pas être déplacé parce qu'on est enracé, ancré en Jésus-Christ. On est ferme. Oui, mais tu n'as pas entendu les nouvelles? Oui. N'est-ce pas effrayant? Et c'est pas bon, c'est pas agréable, mais je suis pas effrayé parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Amen. Alléluia. Numéro deux. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit de demeurer ferme et retenir les instructions. Voilà. Et l'Esprit Saint m'a vraiment, on pourrait dire, éclairci là-dessus il y a quelques semaines. En fait, quand j'étais en France, il y a un pasteur en Alsace qui m'a demandé de prêcher là-dessus. Mais regardons ceci. Retenez mes instructions. Savez-vous quoi? Que la tendance dans le corps de Christ, quand on entend parler des événements difficiles, quand on entend parler des rumeurs des guerres, les rumeurs des crises économiques, etc., etc., voici la tendance. La tendance, c'est d'abandonner les instructions simples de la parole de Dieu. La tendance, c'est de commencer à faire des compromis avec ce qu'on sait et la volonté de Dieu. De quoi est-ce que vous parlez? Mais, laisse-moi juste vous poser la question. Devinez, quand quelqu'un entend parler d'une crise économique, que tout va bien aller mal au niveau des finances, qu'est-ce que les chrétiens sont tentés à faire premièrement? Ils ont tenté à arrêter de faire quoi? Donner la dîme ou donner les offrandes, n'est-ce pas? Quand quelqu'un entend parler de comment l'amour de plusieurs va refroidir, on est tenté des fois à faire quoi? De ne plus faire confiance à personne. Ou de ne plus vraiment manifester l'amour et la compassion de Dieu. Voici qu'est-ce que Paul est en train de dire. Demeurez ferme et retenez les instructions. Faites pas de compromis. Isaac, il avait besoin de semer même dans un temps de famine. La pire chose que vous pouvez faire dans un temps difficile, c'est d'arrêter de mettre la parole de Dieu en pratique. Quand les choses vont aller mal, c'est là où vous avez besoin encore plus de mettre la parole en pratique et d'obéir à toutes les instructions de la parole de Dieu. Colossiens 2, 6 et 7 dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant quoi? Enraciné et fondé en lui et affermé. Soulignez ces mots, hein. Enraciné, fondé, affermé par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Numéro 3, troisième chose que Paul a dit dans ce texte. Gardez votre espérance en Christ. C'est ce qu'il est marqué, n'est-ce pas? Demeurez ferme, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une, quoi? Bonne espérance. On va le dire ensemble, une bonne espérance. Qu'il console vos cœurs. J'aime ceci, 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi, et c'est dans la parole vivante, que j'ai mis cela dans vos notes. C'est pourquoi, rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et agir. Ça, c'est exactement le contraire de la réaction que j'ai décrite au début de ce message. C'est le contraire de ce que les Thessaloniciens ont fait quand ils ont abandonné leur travail. Ils ont dit, bon, on va juste arrêter de travailler et le Seigneur va venir. C'est le contraire de ceux qui sont allés magasiner avec une carte de crédit avec aucune intention de payer la facture. C'est le contraire de ceux qui se cachent dans les cavernes et dans les bois. C'est le contraire de ceux qui ont peur et qui sont paniqués. C'est le contraire. Regardez encore. J'aime tellement ce langage. Rassemblez vos pensées et vos énergies et tenez-vous prêts à avancer et agir. Les temps des fins, c'est pas un temps de reculer, c'est le temps d'avancer et d'agir pour la gloire de Dieu. C'est le temps d'aller dans toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle à toute création et de ramasser le plus grand nombre, de récolter les âmes pour la gloire de Dieu. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Bonne instruction, n'est-ce pas? Tournez toute votre espérance vers quoi? Vers les boîtes de conserve que vous avez dans votre cave. Non? Vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Donc, toute notre espérance. Si votre espérance est dans la bourse, vous serez déçus. Si votre espérance est dans le gouvernement, vous serez déçus. Si votre espérance est dans un homme politique, vous serez déçus. Si votre espérance est dans la grâce qui vous sera révélée le jour que Jésus va apparaître, vous serez jamais déçus. Amen. On vous donne les instructions terre à terre. C'est Dieu qui a inspiré ces choses, n'est-ce pas? Alléluia. Numéro 4, on termine avec ceci. Soyez affermis en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Encore. Qu'est-ce que l'esprit de l'Antéchrist veut? C'est que les chrétiens aient peur et qu'ils se cachent et qu'ils font rien. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on soit affermis. Tout le monde dit affermis. Affermis en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage. Et on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous puissions les pratiquer. Savez-vous quoi? Nous sommes ici pour une raison. L'Église, la vie comblée existe pour une raison. L'Église de Pentecôte et toutes les églises dans cette ville, dans cette province existent pour une raison. L'Église Victoire Centre Chrétien à Nice en France existe pour une raison. Et non, nous ne sommes pas appelés à se cacher ou avoir peur ou paniquer. Nous sommes appelés à aller de l'avant, agir, avancer. Moi, je suis convaincu que ces derniers jours qu'on vit sont supposés d'être les meilleurs jours que l'Église a jamais vus. On devrait voir plus de gloire, plus de puissance, plus de miracles, plus de manifestations de l'Esprit, plus d'amour. Amen. Et c'est ça que les gens vont voir. Oui, laisse-moi vous dire, le zone grise, ça va devenir de plus en plus petit. Parce qu'il va falloir qu'on choisisse. Est-ce que vous allez servir le Seigneur ou est-ce que vous allez servir le royaume des ténèbres? Il va falloir choisir votre camp, n'est-ce pas? Mais moi, je suis dans le bon camp, et vous? Et je veux avancer, je veux faire la volonté de Dieu. Et je veux jouir de ces derniers jours. Est-ce qu'on aura des temps difficiles? Oui. Est-ce que le Seigneur sera avec nous pendant ces temps difficiles? Oui. Donc, pendant les autres semaines qui s'en viennent, on va parler de... On va voir les autres instructions que les autres apôtres ont données, les choses terre à terre, comment, pas juste survivre, mais comment vivre et prospérer et vaincre dans ces derniers jours. Comment devenir une église victorieuse, glorieuse, triomphante dans les derniers jours. Et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Alléluia, on va se lever debout et on va prier. Et je ne sais pas si... Oui, elles s'en viennent au piano. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Le Seigneur ne veut pas que vous soyez troublés. Il ne veut pas que vous soyez bouleversés ou séduits. Mais il veut que vous soyez ancrés, que vous demeurez fermes, que vous retenez les instructions, que vous soyez affermis en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Merci, Seigneur. On va prier, on va demander au Saint-Esprit de vraiment prendre ces paroles de consolation, ces paroles d'espérance, et de faire en sorte que ces paroles soient enracinées dans notre cœur pour toujours. Mais même si la racine est là dans le cœur, il va falloir l'arroser, il va falloir le laisser pousser. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu reviens. Mais, Seigneur, nous croyons que ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, nous ne savons pas. Mais jusqu'au jour que tu reviens, nous allons garder les instructions. Nous allons demeurer fermes. Nous allons garder notre espérance entièrement tournée vers toi, Seigneur. Et nous allons être affermis en toute bonne œuvre. Seigneur, c'est quoi la plus grande œuvre que tu nous as donnée?
c'est d'aller de prêcher la bonne nouvelle, d'amener la parole à toutes les nations. Cette Église est appelée à faire un impact dans la ville de Drummondville, la province du Québec, les nations de la francophonie et au-delà. Seigneur, on refuse de se cacher. On refuse de se laisser paralyser par la peur, la crainte. Mais Seigneur, on ramasse toutes nos pensées et toutes nos énergies pour avancer et agir. Avancer et agir. Avancer et agir. Au nom de Jésus. Alléluia. On va faire une prière ensemble, mais juste avant. Vous savez qu'à tous les dimanches matins, je ne laisse pas passer une réunion du dimanche sans donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont présents de donner leur vie à Jésus. Je vais tout simplement vous poser une question. Si aujourd'hui, en quittant l'Église, tout d'un coup, la trompette sonne et les morts en Christ ressuscitent, et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont véritablement enfants de Dieu, disparaissent comme ça. Est-ce que vous êtes convaincu, est-ce que vous savez que vous faites partie de cette famille de Dieu qui va disparaître, qui va aller célébrer les noces de l'agneau pendant la tribulation? Ou si votre cœur arrête de battre comme ça et vous tombez mort, est-ce que vous avez l'assurance à 100% que votre esprit va quitter votre corps et aller directement rejoindre le Seigneur Jésus? Vous dites, mais je ne sais pas, j'espère. Je suis une bonne personne. La Bible dit que personne n'est assez bonne pour aller au ciel et pour gagner le ciel. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais je lis la Bible, ou je prie, ou je vais à l'église. Vous savez que lire la Bible, prier, aller dans une église, ne peut pas vous assurer la vie éternelle. Il y a seulement une chose. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous avez confessé avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur? Et un Seigneur, c'est un maître, c'est lui qui est en charge. Est-ce que tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Si oui, vous pouvez avoir cette assurance que vous êtes dans la famille de Dieu. Sinon, bonne nouvelle, Dieu vous aime. Et avant de partir aujourd'hui, vous pouvez le faire. Comment? Avec une simple prière. Je vais prier avec vous. Jésus a dit ceci, dernière chose. Matthieu 10, 32, 33. Jésus de Nazareth a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. » On voit l'importance de ne pas avoir honte de Jésus. Jésus a dit à Marc 8, 38, que si tu as honte de moi devant cette génération, j'aurai honte de toi quand je reviens avec mes anges en puissance. Donc aujourd'hui, je vous donne l'occasion. S'il y a quelqu'un ici que peut-être tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, tu veux savoir sans aucun doute que ta vie est en règle avec Dieu, que tu es enfant de Dieu et que sans aucun doute que tu as la vie éternelle aujourd'hui. Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Dès que je tape ma main, si tu veux donner ta vie à Jésus, juste lever la main haut dans l'air. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. C'est quelqu'un? Sinon, peut-être seulement la fête, je ne sais pas. Dieu le sait et tu le sais. Et j'espère que tout le monde ici a déjà donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le donner? Je t'invite pas à faire devenir membre de la vie comblée. Cette église, c'est juste une bonne église. Il y a beaucoup de bonnes églises. Mais je t'invite à faire partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? Juste lever la main. Sinon, j'aimerais vous inviter. Qui ici sait sans aucun doute que vous êtes enfant de Dieu? Juste lever la main. Amen. On va prier cette prière. Père Céleste, nous savons que nous vivons les derniers jours. Nous sommes les hommes et les femmes avertis. Nous savons l'heure que nous vivons. Et nous te remercions que nous ne sommes pas troublés ni bouleversés. Nous ne serons pas séduits. Nous te remercions, Seigneur, que nous sommes reconnaissants, que nous serons sauvés de la colère à venir, et nous sommes prêts à accomplir ton appel et posséder la gloire en demeurant fermes, en retenant les instructions, en gardant l'espérance et en étant affermis en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Merci Seigneur, que ces derniers jours seront les meilleurs jours pour ton Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Je vous aime. Mercredi soir, on va traiter avec Pasteur John.